ou pas à recevoir cette image des parents comme une bénédiction. C'est-à-dire, ou bien ils la répètent comme quelque chose de figé, ou alors ils en prennent volontairement le contre-pied parce qu'ils en ont une telle peur qu'ils fuient de l'autre côté. Ce qui est aussi une manière de considérer l'identité parentale comme figée. Et puis, leurs propres enfants font la même chose que eux ont fait par rapport aux parents, etc. Donc on retrouve à la troisième ou à la quatrième génération le travers de la première. Et les gens sont très surpris de voir leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, alors qu'ils ont voulu transmettre à leurs propres enfants exactement le contraire de ce qu'eux-mêmes avaient reçu de leurs parents, exactement les mêmes symptômes. C'est normal, c'est le jeu des contraires, comme en physique, le plus c'est le moins. Je simplifie, c'est bien entendu. Mais il y a de cela dans le verset. Et il y a de cela, et je veux dire que je n'aime pas la politique des contraires. Je ne dis pas que vous l'affirmez, cette politique. Je cherche simplement à retrouver un petit peu l'assise devant cette affirmation que vous avez prononcée tout à l'heure. Faire extrêmement attention, césure et présence dans l'histoire. Césure n'implique pas sortie de l'histoire. Le roc n'est pas une fin en soi. Je n'ai pas à m'immobiliser dans un arrêt de l'histoire, dans le roc. Faire des roquims, c'est-à-dire faire des lois auxquelles je ne comprends rien, auxquelles je ne mets aucun lien avec la finalité, avec l'esprit du sujet dans l'histoire, mais c'est un moment de ressourcement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis ouvert au peuple et aux cultures qui savent introduire dans leur pensée de l'histoire cette césure. Que nous appelons le roc.
Si je ne le dis pas, comment ils le sauront?
Ah, mais je dois. Non, mais écoutez, ça, c'est un problème pédagogique.
Juste une dernière intervention, s'il vous plaît, madame.
À Pétard.
Vous avez demandé la parole, et puis ensuite, je demanderai à Manitou de conclure cette soirée.
La vie et la mort sont placées devant toi. Mais si il y a l'interdit de la représentation, si on prend le cas d'un artiste, d'un musicien ou d'un peintre, qu'on lui interdit cette représentation, peut-être que sans son art, il va mourir. Alors, cet interdit, comment vous avez un petit peu répondu à ma question.
Abraha, l'aklala, le ra ou zarecha. Ce qui m'importe n'est pas tant le rapport de l'artiste à son œuvre d'art, mais la bénédiction ou la malédiction qui vont suivre pour lui et pour sa descendance. La descendance, ça peut être moi, celui qui voit l'œuvre d'art, au sens du terme. C'est-à-dire que, comprenez bien, que si j'ai vécu un très grand deuil, dans les formes tout à fait premières de psychothérapie, on incite à l'écriture. J'écris ma souffrance pour essayer de me délivrer, en quelque sorte, de ce qui est enfoui, de ce qui est implicite, caché en moi. Faire émerger. Ça peut faire une très belle œuvre d'art. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un d'autre lit, ça sent l'authenticité. Ça sent la relation vécue à la personne qui a disparu. Et c'est vrai, c'est quelque chose de très très juste. Maintenant, toute la question est de connaître l'usage de cette œuvre d'art. Dans quelle mesure elle sera ou non porteuse de bénédiction. Une représentation peut être porteuse de bénédiction à condition que je ne me prosterne pas devant, dit le verset, et que je ne m'asservisse pas. Et la suite du verset, c'est ce que j'ai répondu à la dame tout à l'heure, tout est dans le troisième, quatrième génération. Il a perdu un enfant, je crois qu'il avait 7 ou 8 ans. L'enfant avait 7 ou 8 ans. Et il a écrit un très beau poème, l'enfant, qui est un des sommets de la poésie en fait. Du 19e et du 20e siècle, sur la représentation de cet enfant, c'est-à-dire sur la nostalgie, la représentation qu'il a essayé de reformuler, de réécrire. C'est-à-dire, il a. Bon, enfin, je vais pas recommencer mes phrases tout à l'heure.
Vous dites que
récupérer de mémoire,
c'est une assurance.
C'est un travail de deuil pour Mallarmé, c'est bien entendu.
C'est donc ça aussi.
Oui.
C'est donc ça aussi. C'est pas une fascination de mémoire.
Cela peut en être une, comme ça peut ne pas en être une. Tout dépend de l'usage que l'on en fait, c'est-à-dire du caractère de vie, de mobilité, et non pas de fixation. En quoi une œuvre d'art peut-elle être de la bénédiction ou de la malédiction? Je pose la question. Bracha ou klala? Ce n'est pas du tout un interdit de peindre, ou d'écrire, ou de jouer de la musique, ou de l'institution d'une manière générale, qui est aussi une forme de représentation de la pensée, une institution politique par exemple. Tout dépend de l'usage que l'on fait de cette représentation. de se substituer à la relation idéale.
Comme ils ont fait décamper le plan d'Israël,
oui,
du bord de la mer Rouge, est-ce qu'ils ne craignaient pas également que le plan d'Israël soit un peu par les morts du
final? C'était pas seulement les morts, Bizatayam. Le butin de l'armée égyptienne, les valeurs, le butin.
Les étincelles, oui, les clipotes dont vous parliez, oui, tout à l'heure, de l'Égypte.
Alors, si vous voulez bien, avant de passer la parole à Manitou, je dirais simplement que on pourrait appliquer aussi ce travail de deuil aux lamentations de Jérémie. Explique. Hein? C'est-à-dire toute cette transfiguration un peu artistique. On pourrait exactement l'appliquer à Echa. Mais enfin, je dis ça en passant.
Étant entendu que l'on enlève ces... Non, je prolonge votre phrase dans l'esprit d'un commentaire. Étant entendu que l'on enlève son attribut civil, qui représente les chaussures en cuir et tout ce qu'on vient de cuire, peut-être précisément pour retrouver cette précarité dans le travail du deuil du texte de Jérémie, de telle sorte que ce ne soit pas un poème porteur d'une pulsion de mort, mais d'une pulsion de vie. On est bien d'accord?
Tout à fait.
D'accord.
Alors, il y a encore une question. Oui, mais il est assez tard. Ouais.
Je voulais poser la question suivante. Parmi tous les grands maîtres du chassidisme que vous avez cités en début de votre exposé, n'y avait-il pas une place, peut-être oui, peut-être non, je n'en sais rien, pour Rabbi Nachman de Breslav?
C'est plus ça. Peut-être l'intégrer,
oui, oui.
Par allusion. C'est peut-être plus un littérateur qu'un philosophe.
En tout cas, je dirais, j'aurais bien aimé disposer de beaucoup plus de temps que je ne vais vous prendre pour tenter de rattacher l'énorme richesse de ce que nous avons entendu ce soir et à travers les questions à l'ensemble du sujet. Je vais simplement dire, pour fixer les repères, c'est que lorsque M. Roski, qui a formulé les sujets de ce séminaire, m'a fait part à Jérusalem de cet intitulé et de l'acceptation du rabbin Varnaïm, j'en étais très heureux, parce que, effectivement, la question de M. Dubchani l'a bien précisé ponctuellement, nous sommes là dans un carrefour de réflexion qui est aussi lié à la contemporanéité. Et je m'explique. En reprenant les remarques du début de M. Toiti, qui étaient très pertinentes, M. Roski m'a expliqué que dans sa pensée, il y avait une différence de stratégie dans la relation entre Israël et les nations et réciproquement entre la pensée kabbaliste et chassidique d'un côté et la pensée juive moderne de l'autre. Le point qui a été un peu moins peut-être abordé ce soir, dans la pensée juive moderne, on a tendance à penser, je suis la répétition, que cela va dans un sens, qu'Israël a apporté un certain nombre de valeurs, un certain témoignage, un certain enseignement aux nations, à l'universel humain. Alors que dans la pensée kabbaliste et dans la pensée chassid, nous avons une stratégie exactement inverse qui est indiquée, ça a été senti ce soir. Et je crois que M. Toiti a très bien fait, mais ce serait peut-être l'objet encore d'une autre réflexion, de distinguer entre le niveau kabbaliste de la pensée kabbaliste et le niveau chassid. Je suis désolé d'avoir le dire aussi schématiquement. Dans le monde de l'atmosphère de la chassidoute, de la relation entre Israël et les nations, il semble bien, tout ceci est très schématique, que la présence des non-juifs est absolument fantomatique. C'est-à-dire comme s'il y avait dans la scène de l'histoire des personnages qui étaient là comme figurants d'une histoire qui ne se passe que entre Israël et Dieu. Il faut nuancer cela par rapport à tous les auteurs que l'on veut citer ou non citer. Alors qu'au niveau de l'interprétation kabbaliste, dans l'image des clipotes, des Nitzotzot HaKodesh, qui nous vient du Hari, il y a la stratégie inverse. C'est que la relation entre Israël et les nations consiste à recevoir des nations ces valeurs de sainteté qui, dès l'origine de la création, sont éclatées, dispersées, cachées dans l'universel humain. Et c'est dans la mesure précisément où les maîtres des chassidim se rattachent plus à la tradition kabbaliste, plus ou moins, que nous en avons eu des exemples ce soir, que c'est cette vision qui est restituée. Et M. Varnaïm a eu le très précis mérite de mettre en évidence à quelles conditions. C'est la discussion sur le roc. J'en donnerai vraiment en quelques phrases un exemple dans un auteur qui me semble central dans ce sujet et qui est le Schla, le Schnelluchot Abrit. Et il en parle, je vais très schématiser, à propos de la raison donnée par le Midrash et rappelée par la Gada de Pessah pour laquelle Jacob est obligé de descendre en Égypte rejoindre Joseph. Dans la lecture directe du récit biblique, on ne perçoit pas tellement cette obligation. Le Talmud déjà le dit, Jacob était contraint de descendre dans l'exil d'Égypte, et s'il ne s'est pas descendu de son propre gré, on l'y aurait traîné, enchaîné. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette Gemara. La Gada de Pessah dit qu'il est descendu « anus al pi adibur », contraint par cette parole que vous avez, je pense, citée, de la prophétie à Abraham, que dans certaines occurrences historiques, sa descendance ira être exilée en Égypte avec tous les avatars des risques de l'esclavage ultime, mais qu'ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. Je crois que je mettrai plus l'accent sur cet exemple du butin sur la mer Rouge, Bitzat Mitzrayim, et les valeurs emportées d'Égypte que l'arrivée à la terre comme promesse, récompense de l'exil. C'est un autre niveau du sujet, mais je reviens au problème. Et c'est ainsi classiquement qu'on l'explique, puisque cette parole avait été dite à Abraham, il fallait bien qu'elle s'accomplisse, et pour qu'elle s'accomplisse, il fallait que Jacob descende en Égypte. À nous, à Dibourg, de ce verset. Le Schla met en évidence, à travers cette stratégie, cette vision kabbaliste qui est opposée à celle de la pensée juive moderne, que Israël est censé être l'instituteur des nations, si j'ose dire, le lit de cette manière. Depuis la création du monde, la parole de Dieu, créatrice du monde, est prisonnière de sa création, et que Jacob est contraint par cette parole prisonnière à la périphérie du monde, et qui lui l'oblige à venir la délivrer. Et c'est un peu abstrait, pas symbolique, mais un peu pas suffisamment concret en français, et ça signifie qu'il y a des valeurs en travail à la périphérie du monde qui appellent le foyer de l'unité des valeurs que représente Israël depuis le début de l'histoire à venir les délivrer. Un peu comme on pourrait dire en français, comme on délivre un message. Il y a un message qui crie qu'il n'arrive pas à être délivré, et il appelle pour qu'on vienne le délivrer. Énormément d'exemples sont donnés par le Schla. En particulier, un seul. Avant la sortie d'Égypte, Moïse n'arrive pas à parler. Il est dans l'Égypte, mais il ne peut pas parler. À partir de la sortie d'Égypte, le message est délivré en pointillé, et alors devient le porte-parole. C'est extrêmement étonnant. Avant la Géoula, Moïse ne parle pas. Pour toutes les raisons que les Midrashim et que les commentateurs mettent en évidence. Mais il ne parle pas. Et bien là, on ne s'en rend pas compte. Mais dès que la sortie d'Égypte est faite, parle aux enfants d'Israël, tu es le porte-parole, et ça parle. Il y avait donc quelque chose à délivrer. C'est cela, je crois, la perspective de l'opposition, de perception de la nature du lien entre Israël et les nations dans la pensée kabbaliste. Cela va des nations vers Israël. Et lorsque le message est délivré, il faut s'en aller. C'est moi qui l'ajoute, mais la Schla le dit déjà. Et la pensée juive moderne qui est exactement l'inverse. Il l'a fait aussi. Il l'a fait aussi, bien sûr. Voilà ce que je voulais ajouter. Je nous félicite de cette soirée.
Je vous remercie. Ah, excusez-moi, j'avais un message à vous délivrer, mais un message tout à fait concret, à savoir que...